Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui, surtout si vous avez lu le Quoi de neuf avant de venir. Voilà, je propose de prier, de remettre ces moments devant le Seigneur. Seigneur, quelle grâce tu nous invites aujourd'hui à passer ces moments ensemble devant toi. Nous voulons prier pour que tu parles à nos cœurs. Seigneur, nous voulons prier pour que ton esprit soit à l'œuvre et nous voulons placer ces moments devant toi, te dire merci pour ta présence. Au nom de Jésus, amen. La dernière fois, quand j'ai eu l'occasion de prendre la parole, nous avons médité ce mot « silence » dans la Bible. Et c'est Jacques Pujol qui m'a beaucoup aidé. Lui, il dit que quand on interroge la Bible de plus près, il apparaît clairement trois types de silence exprimés par des familles de mots distincts. Et aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous, pour moi, le dernier de ces mots, de ces familles de mots. Et c'est ce que Jacques Pujol appelle le silence de la mort. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une personne de Dieu qui se tait. Il est plutôt question d'un lieu où règne le silence. Quand Dieu se tait, c'est inquiétant. Mais ce lieu où règne le silence, où personne ne parle, c'est effrayant. Nous le trouvons dans le psaume 6. C'est David qui se sent défaillir et il fait appel à Dieu. Je ne lis pas tout, mais il dit « Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. » Il dit « Dans ton amour, viens, sauve-moi. » À la fin, « Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ?» Nous trouvons ce mot également dans le psaume 115. « Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il a donné aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. » J'imagine aujourd'hui que quelques personnes auraient préféré que nous abordions un autre sujet. Ah, mais je ne le fais pas. Parce que, bon, je me suis dit que si jamais il me demande encore de prendre la parole, je dois aborder ce sujet, ce silence. Parce que je crois que c'est très important pour nous tous. Et si je prêche aujourd'hui, c'est en tout premier lieu pour moi, pour mettre les choses bien en place dans ma tête. Est-ce que c'est ça que je veux? Je pense qu'on est allé trop loin. C'est ça. Alors, nous sommes tous concernés. Personne n'y échappe. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, tôt ou tard, nous serons confrontés à ce moment où nous allons quitter ce monde, où nous allons passer à l'autre côté. Et c'est quoi au juste, l'autre côté? Je pense pour bien des personnes dans notre entourage, c'est l'inconnu, c'est le pays du silence. Nous avons certainement entendu cette phrase « Il n'y a pas d'âge pour mourir ». Les deux années écoulées nous ont réservé quand même quelques surprises parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus parmi nous, il faut le dire. Et on parle de la pandémie que, si je comprends bien, On a eu 150 000 morts en France à cause de la COVID. Je peux me tromper, mais c'est ça que j'ai compris. À la télé, j'ai vu qu'il y a un feuilleton qui s'appelle « Demain nous appartient ». Moi, je ne l'ai jamais regardé, mais je crois que nous devrions plutôt dire que « Demain ne nous appartient pas, pas encore, pas encore ». Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus importante que nous pouvons faire aujourd'hui? Vous avez certainement entendu parler de Charles Spurgeon, ce grand prédicateur qui était à Londres. Et en 1865, il a prêché sur le départ du prophète Élie en 2 Rois 2. Vous vous rappelez que Élie était en train de marcher avec Élisée. Et tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Et tout d'un coup, il y avait un char de feu et des chevaux de feu qui sont venus les séparer. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. À partir de ce texte, Spurgeon, il a dit que nous devrions nous préparer pour le jour où nous allons quitter cette terre, parce que c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Voici ce qu'il disait, je l'ai affiché. C'est intéressant ce qu'il a dit. Les années tournent si vite que nous ne voyons pas les mois qui, pour ainsi dire, forment les rayons d'une roue. Tout cela va si vite que l'axe de la roue s'échauffe avec la vitesse. Nous volons comme sur l'aile d'un aigle puissant vers l'éternité. Parlons donc de la préparation à la mort. C'est la plus grande chose que nous ayons à faire et nous devons la faire bientôt. Alors parlons-en et réfléchissons-y. Alors vous avez compris. Aujourd'hui, je propose que nous regardions ce sujet de trois angles différents. D'abord, l'apparition brutale de la mort. Deuxièmement, la réalité de ce redoutable ennemi aujourd'hui. Et troisième, la seule vraie réponse, c'est le Christ ressuscité. Donc tout d'abord, l'apparition brutale de la mort. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et que chacun de nous doit affronter ce moment qui va mettre fin à sa courte vie sur Terre. Pourtant, une vie qui est pleine de rêves, d'attentes, d'aspirations. Et c'est Paul qui nous donne la réponse dans sa lettre de Romains. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam, et le péché a amené la mort. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. Donc, comme vous avez compris, c'est le premier livre, Genèse, qui nous éclaire sur ce sujet. Mais tout d'abord, il y a quelque chose d'important à retenir. Dans les toutes premières pages de Genèse, nous constatons que la mort est absente. La mort est absente. Il faut souligner que Dieu, le Créateur, est un Dieu de la vie. Et son projet n'est rien d'autre qu'un projet de vie. À la fin de la sixième jour de la création, nous lisons que Dieu avait regardé tout ce qu'il avait créé. Et c'était très bon, c'était parfait. Et après avoir créé l'homme, il lui donne un cadre magnifique. On l'appelle le Jardin d'Éden, le pays des délices. C'était le paradis sur terre. Il n'y avait absolument rien qui manquait. Dieu avait pourvu à tout avec abondance. Dieu nous a fait pour la vie. Nous lisons que Dieu a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. Quand Dieu a créé l'homme, c'était parce qu'il avait en tête un projet de vie, un projet d'avenir, de promesses, de couleurs, de beauté, d'harmonie. Nous sommes faits pour la vie. Je pense que ça fait écho dans nos cœurs aujourd'hui. Je ne suis pas fait pour la mort, je suis fait pour la vie. Et voilà. Mais nous lisons que dans ce jardin, Dieu avait placé un deuxième arbre. C'était, je prends la traduction du semeur parce que ça me plaît beaucoup. Ils disent que c'est l'arbre du choix entre le bien et le mal. Je me pose la question peut-être un peu bêtement, mais pourquoi fallait-il donc que cet arbre soit là, dans ce jardin des délices? Mais en même temps, je me rends compte que l'homme, il n'est pas un robot, un appareil doté d'une puce électronique avec une carte mémoire, qu'il est programmé pour faire certaines choses. Non, non. L'homme est un être responsable. Il peut prendre des décisions. Il peut faire des choix. Et des choix qui l'amènent soit sur un chemin d'épanouissement ou soit dans l'impasse, dans la honte, dans les ténèbres. L'homme peut choisir, pas seulement ce qu'il va manger pour le petit déjeuner, ça c'est banal, mais il peut choisir de vivre dans la dépendance de son Créateur ou au contraire choisir de rejeter, briser cette dépendance. Pour moi, c'est cette deuxième option qui est incarnée par cet arbre du choix entre le bien et le mal. Est-ce que Adam va obéir à Dieu, lui faire confiance, ou est-ce qu'il va prendre son propre chemin en mangeant ce que Dieu lui interdit de manger? C'est son acte d'obéissance ou de désobéissance qui va déterminer le cours de sa vie. C'est vrai que nous sommes tout petits devant ces textes aujourd'hui, mais nous lisons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que Dieu avait fait. C'est bien ça, oui. C'est l'Apocalypse qui nous donne l'identité de ce serpent. Ce serpent. Alors, une bataille s'engageait dans le ciel, dans les cieux. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci combattit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges lui furent chassés des cieux. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Moi, je ne sais pas comment ce serpent a eu accès à ce jardin de délices. Mais comme toujours, il se présente avec des discours séduisants. Je laisse aller un petit peu mon imagination. Ah bonjour Ève, comment ça va? Ah oui, oh, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Et ce jardin plein de bonnes choses à manger? Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous pouvez manger de tout? Au lieu de l'ignorer, Ève entre en conversation avec le serpent. Elle rapporte tout ce que l'Éternel leur avait dit, même au sujet de ce fruit de cet arbre qui était au milieu du jardin. Ah, Ève, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Que vous ne devez pas du tout manger le fruit de cet arbre? Regarde comme il est beau, et le fruit, il a certainement très bon goût. La réponse d'Ève ne va pas tarder. Elle dit, Dieu avait clairement dit non. Manger de ce fruit aurait comme conséquence la mort. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quoi, mais Ève, tu es folle? Tu crois ça, toi? Sois un peu raisonnable. Et nous lisons que la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qui devait être bon et qui donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Est-ce que je suis à la bonne place? Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. C'est tout le drame de l'humanité qui est là dans ces versets. On ne prend pas Dieu au sérieux. On ne croit pas que ce qu'il dit est vrai. On croit au mensonge. On pense qu'on sait mieux que lui. C'est la rébellion et la chute de l'homme qui entraînent des conséquences dramatiques, pas seulement pour Adam et Ève, mais pour tous ses descendants. Et même, ça a touché toute la création. Adam et Ève sont chassés de ce jardin, ce paradis. Nous lisons que Dieu a érigé des barrières. C'était impossible d'y retourner. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant dans tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Il faut souligner que ce n'est pas un acte de vengeance, d'un acte irréfléchi, accompli dans un moment de colère. Il faut souligner que Dieu agit selon ce qu'il est, avec bonté. Non, parce qu'en réalité, l'homme qu'il est devenu, dans cet état de rébellion, de péché, il ne doit absolument pas avoir accès à cet arbre de vie. Impossible pour l'homme d'entrer dans ce projet de vie dans cette condition. Adam et Ève ne meurent pas sur le champ, mais ils vont mourir, comme Dieu l'a dit. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit que le diable est menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Et désormais, l'homme trouve impuissant face à la mort. Parlons maintenant de la réalité de ce redoutable ennemi aujourd'hui. Il y a Mathieu Giralt, le pasteur des tubes, qui a publié un article sur son blog « 10 pensées à propos de la mort ». Et il a puisé dans ce livre par Mathieu McCullough. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Il dit « penser à la mort » n'est pas l'antithèse du bonheur. Au contraire, cela nous permet de penser avec sagesse à notre vie sur terre. Et en plus de mettre les choses en perspective, la mort redonne toute sa force à l'Évangile. Tout d'abord, la mort est inévitable. Vous me dites, nous savons cela, c'est rien de nouveau. Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais pourtant, et pourtant, nous vivons comme si ce n'était pas vrai. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous vivons comme si ce n'était pas vrai. On pense à la belle retraite, on cotise, bref, on se prépare pour cette période de notre vie, mais on s'arrête là. On pense aux projets qui pourraient se concrétiser, les voyages, le camping-car, le déménagement pour être proche de nos enfants, nos petits-enfants. On rêve la tête un peu dans les nuages. Mais qui sait si nous allons atteindre cet âge avancé et si la santé va nous permettre de jouir de ces années où on n'a plus besoin de nous lever tôt pour aller au boulot. Nous avons tendance à espérer que l'avenir nous donnera plus que nous avons aujourd'hui. La mort de nos proches devrait nous avertir de la nôtre. La mort est inévitable. Cela peut paraître évident, et pourtant, la mort est toujours un scandale absurde. Mais elle est ressentie le plus souvent comme une surprise. Pourquoi il ne bouge pas ? Le deuxième, il ne bouge pas, je ne sais pas pourquoi. Tu arrives à bouger? Non. Bon, voilà, je continue. La deuxième chose, c'est que la mort est devenue invisible. Dans la plupart des cas, on ne meurt plus à la maison, mais à l'hôpital. Il y a des métiers où la mort est bien visible. Des médecins, des infirmiers, des pompiers. Mais en général, pour beaucoup de gens, elle est invisible. On entend qu'une personne est décédée, mais on ne le constate pas de nos propres yeux. Quand nous étions en Afrique, c'était tout autre chose. Quand la mort frappait, elle était bel et bien visible. Je n'aimais pas trop assister aux funérailles, mais au village, de jour comme de nuit, on entendait de loin quand il y avait un décès. On entendait des douleurs et la vie s'arrêtait et tout le monde au village allait pour assister aux funérailles. En Pélobi, quand on arrivait sur place, la première chose, c'était d'aller voir la mort. Souvent placé sur un fauteuil. Ça, c'était la première chose à faire. Et s'il s'agissait d'une personne importante dans le village, ses funérailles pourraient durer 2-3 jours. Je me sentais souvent mal à l'aise. Il y avait toutes sortes de rites. On interrogeait même le défunt pour savoir pourquoi il est mort. Oui, c'était un monde très visible, pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. La mort nous rend humbles. Nous ne sommes pas trop importants pour mourir. Nous ne sommes pas indispensables. Le monde va continuer à tourner sans nous. On a de la peine à y croire, mais c'est vrai, c'est vrai. La mort questionne notre valeur. Alors, quelle est la valeur de ma vie si je ne suis pas indispensable? La seule réponse satisfaisante est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je ne suis pas le produit du hasard comme certains voudraient me le faire croire. Malgré mes manquements, mes faiblesses, ma vie est précieuse aux yeux de Dieu. La mort nous rappelle que tout est éphémère. Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est dérisoire. Et même si notre travail peut apporter un peu de bonheur, c'est toujours relatif. on ne pourrait jamais être comblé par notre travail. Et j'ai pensé à Steve Jobs, qui était multimillionnaire à 25 ans, qui était le PDG d'Apple. Il est mort à 56 ans. Et allongé sur son lit d'hôpital, il se rappelait de toute sa vie. Et il disait, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Dans l'obscurité, quand je regarde les feux verts de l'équipement, de la respiration artificielle, je peux sentir le souffle de la proximité de la mort qui m'attend. C'est seulement maintenant que je comprends que nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse. La mort nous révèle notre matérialisme. Elle révèle à quoi nous tenons dans cette vie, en quoi nous mettons notre confiance. Mais la mort peut aussi nous aider à apprécier ce que nous avons, en le replaçant dans le juste perspective que tout ce que nous avons vient de Dieu. La mort nous aide à voir plus loin. La mort nous montre l'impasse d'une vie sans Dieu. La vie sans Dieu est une voie sans issue. Et voilà, nous venons maintenant à cette dernière partie que la seule vraie réponse à la mort, c'est le Christ ressuscité. Quelle bonne nouvelle à partager aujourd'hui. Le silence de la mort a été brisé en 1000 morceaux. Cet ennemi si redoutable a été vaincu à la croix. Je vous invite à venir avec moi à cette scène de la crucifixion. Est-ce que vous vous souvenez de ceux qui se moquaient de Jésus? Jésus qui agonisait sur la croix. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi. Ce soir-là, ils se sont frottés les mains. Ils avaient enfin réalisé ce qu'ils voulaient. Ils s'étaient débarrassés de celui qui les dérangeait. Ce Jésus, prince de la vie, il était mort désormais dans la tombe. Mais la nuit était courte, très courte. Ils n'ont pas trouvé le sommeil. Ils se sont souvenus de cette parole de Jésus qui disait, au bout de 3 jours, je reviendrai de la mort à la vie. Tôt le matin, ils sont allés voir Pilate pour lui demander de faire surveiller la tombe. Nous lisons que le gros bloc de pierre à l'entrée a été scellé et des soldats montaient la garde. Il fallait s'assurer que ce corps reste coûte que coûte dans la tombe. Aujourd'hui, je leur dis merci parce que c'est encore une preuve de plus de la résurrection. Ils ont fait que cette tombe était comme une prison à haute sécurité. La porte était fermée à clé et c'était sous haute surveillance. Mais chose incroyable. Est-ce que je suis à la bonne place? Il ne bouge pas, je crois. Mais chose incroyable, le troisième jour, il y a eu un tremblement de terre. Matthieu parle de l'intervention d'un ange et ce gros bloc de pierre s'est déplacé. Les gardes étaient saisis d'épouvante. Ils se sont mis à trembler. Ils sont devenus comme morts. Je me souviens d'un cas d'enfant où le prédicateur a demandé, mais pourquoi la pierre avait été roulée? Il a souligné que ce n'était pas pour que Jésus puisse sortir de ce tombeau. Parce que, non, c'était pour nous, pour nous faire comprendre que Jésus n'était plus là. Il était déjà ressuscité. La tombe était vide. Quel bonheur pour nous aujourd'hui. Le projet que Dieu avait dans son cœur prend forme à ce moment. Jésus est revenu à la vie et toutes les belles paroles, les promesses sont oui et amen en lui. La résurrection du Christ annonce cette vérité que la mort n'aura pas le mot final. Je ne sais pas si je peux vraiment... On bouge de nouveau. Si je peux vraiment comprendre. Venez encore avec moi à la crucifixion. Nous voyons un homme innocent entre deux brigands et il est en train d'agoniser. Mais qui est cet homme agonisant en train de mourir? Selon les évangiles, ce n'est personne d'autre que Dieu lui-même en la personne de son Fils bien-aimé. Il n'y avait pas d'autre solution. À part Jésus, aucun être humain n'était qualifié pour inverser le processus et nous arracher à la mort. Christ venu du Père de toute éternité, qui n'a jamais commis de péché, lui seul était capable de payer notre dette. Il a pris notre place, notre condamnation. En Romains 5, oui, quand nous étions sans force, incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour des gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà pour une personne juste, on serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore des pécheurs. Ça ne bouge pas. Quel amour! Il dépasse toutes les limites. Moi, à la place de Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais abandonné l'homme en avance un peu. Moi, j'aurais abandonné l'homme à son sort. Mais Dieu fait l'impensable. C'est lui qui agit, qui nous garde avec tant d'amour, qui nous tend la main, qui nous ouvre le ciel, qui nous offre le pardon, le salut. C'est les paroles de Jésus à Marthe qui me viennent à l'esprit. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je reprends les derniers mots de cette phrase. Croyez-vous cela? Ne restons pas immobiles. Saisissons la main de Dieu tendue pour chacun de nous. C'est important de le faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas, pas encore. J'étais frappé par le reportage d'un journaliste qui travaillait dans les locaux des médias à Gaza. On vient lui dire qu'il a 10 minutes pour quitter le bâtiment. Une frappe aérienne est imminente. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté dans son fauteuil, très confortable, en se disant lui-même que bon, ce sont des paroles pour faire peur, ou peut-être que c'était une blague? Non, il s'est levé, il a pris son ordinateur et quelques autres articles, et en toute vitesse, il est sorti de ce bâtiment. Les images sont saisissantes. En quelques secondes, les meubles s'étaient écroulés et cette tour avait disparu du paysage. Je me dis croire, c'est agir. c'est de ne pas rester immobile, mais de courir dans la bonne direction. À nous aujourd'hui de saisir la main de Dieu qui est tendue pour nous. Et pour terminer, j'aimerais que nous chantions le cantique J'aime 456. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi que je sois libéré.